Comment comprendre les événements de notre monde? Comment nous situer et comment savoir ce que Dieu attend de nous? Récemment, dans le programme du groupe Théogène, Théogène qui est un des, vous l'avez vu affiché tout à l'heure, qui est un de nos groupes d'enfants et d'adolescents du dimanche matin, nous avons abordé ce sujet, la Bible. Alors vous allez me dire que ce n'est pas très original pour une leçon d'école du dimanche de parler de la Bible, mais c'était la Bible au sens global. La Bible dans son ensemble. Ce qu'elle est pour nous, en tant que livre, parole de Dieu, et son message global, son message d'ensemble. C'est une question que nous abordons régulièrement dans ce groupe Théogène, parce qu'il nous paraît important que nos jeunes aient non seulement des connaissances précises sur tel ou tel texte ou livre biblique, mais qu'ils aient aussi les moyens de situer telle histoire, tel personnage, tel passage dans un ensemble plus vaste qui est la Bible tout entière, Ancien et Nouveau Testament. Et je me doute que les autres groupes d'école du dimanche font aussi ce travail, chacun à sa manière et en tenant compte bien sûr de l'âge des enfants. Cette façon d'aborder la Bible dans son ensemble est utile pour nos enfants, mais elle l'est probablement aussi pour nous, qui sommes un peu plus grands, car le message biblique dans son ensemble nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Il nous permet de comprendre notre place à nous, chrétiens du XXIe siècle, à nous, Église d'aujourd'hui, notre place dans ce monde, et il nous permet d'apprendre à vivre dans ce monde en tant que communauté de foi. Nous allons utiliser ce matin une image suggéré par plusieurs auteurs chrétiens, mais permettez-moi de commencer d'abord par cette prière du psaume 119, à partir du verset 5, verset 105. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière qui éclaire mon sentier. J'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Je suis plongé dans la misère. Ô Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. Accueille avec faveur, ô Éternel, ma prière comme une offrande et enseigne-moi tes décrets. Ma vie est sans cesse en danger, mais je n'oublie rien de ta loi. Des méchants m'ont tendu des pièges, mais je ne dévie pas de tes commandements. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux. Amen. C'est le jour. Vous vous décidez enfin à faire le grand rangement chez vous, de la cave au grenier. Il y a longtemps que c'était prévu, mais vous repoussiez sans cesse l'échéance. Mais lorsque vous ouvrez ce vieux placard du grenier plein de poussière, vous ne vous attendez pas à ce que vous allez trouver. Dans le grenier, dans ce vieux placard poussiéreux, il y a un texte. C'est une histoire. C'est même une pièce de théâtre. Mais ce n'est pas n'importe quelle histoire. C'est l'œuvre d'un grand auteur. Vous savez, c'est un peu comme quand on retrouve un Picasso inconnu dans un garage, quelque part sous une pile de vieux cartons. Vous lisez ce texte, c'est passionnant. Vous en arrivez à la dernière feuille, mais il manque la fin. L'histoire n'est pas finie. En fait, il semble bien qu'il manque un chapitre. Or, il n'y a rien de plus dans le placard. Vous avez beau chercher de partout, secouer toutes les poussières possibles, c'est terminé. Vous n'aurez pas la suite de l'histoire. Cette histoire est en 4 chapitres, en 4 actes, mais de toute évidence, le 5e acte a été perdu, ou en tout cas, il n'a peut-être pas été écrit. C'est d'autant plus malheureux que les 4 premiers actes que vous avez lus sont magnifiques. C'est vraiment une histoire. Il y a une intrigue, il y a du suspense, il y a des personnages incroyables et en même temps incroyablement proches de vous. Il y a des choses très très belles, il y a des choses très très tristes. Vous faites lire ce texte à plusieurs de vos amis. Tout le monde est d'accord pour dire que cette histoire est remarquable et qu'elle doit être racontée et qu'elle doit même être jouée et mise en scène. Mais comment faire? Est-ce qu'il vaut que vous écriviez vous-même le 5e chapitre? ou que vous demandiez à l'une des personnes à qui vous avez fait lire le texte de l'écrire. Mais personne n'ose se lancer, bien sûr. Personne n'ose écrire un cinquième acte qui serait ajouté aux quatre premiers. Écrire un cinquième acte, ce serait peut-être attribuer à l'auteur d'origine un chapitre qui ne serait pas de lui. Comment faire ? Comment faire ? Alors il vous vient une idée, vous allez vous lancer dans la mise en scène, vous choisissez parmi les personnes qui ont lu le texte quelques acteurs, vous leur confiez les rôles. Ils ont lu la pièce, ils l'ont appréciée, ils connaissent maintenant bien le texte, ils connaissent l'auteur, ils le connaissaient déjà auparavant en fait, ils connaissent bien les quatre premiers actes, ils sont sensibles au style de l'auteur, à sa façon d'écrire, à sa façon de communiquer. Bref, ils aiment cette histoire. Vous demandez à ces acteurs de s'immerger profondément dans les quatre premiers actes, de s'en imprégner, de les lire et de les relire. Et puis, le moment venu, vous mettez tout ce monde sur une scène de théâtre et vous leur demandez de jouer, vous leur demandez d'improviser en direct le cinquième acte. Réfléchissez à la méthode et au résultat. Les quatre premiers actes sont ceux qui font référence. En revanche, on pourra évaluer le cinquième acte, s'interroger sur l'improvisation des acteurs sur la base des quatre premiers actes qui font autorité. Si le cinquième acte n'est pas en accord avec le début de la pièce, alors ça ne fonctionnera pas. En même temps, on ne pourra pas se contenter de demander aux acteurs du cinquième acte de répéter sans fin et de répéter encore les quatre premiers actes comme des perroquets. Non, ils vont devoir prolonger l'histoire après y avoir puisé l'inspiration dont ils auront besoin et en déduire un cinquième acte. Les acteurs sont des gens libres et responsables. Ils accepteront d'entrer dans l'histoire telle qu'elle est, de s'en imprégner, d'essayer d'en comprendre le fil conducteur, d'en saisir les enjeux, puis ils parleront. Puis ils agiront en faisant preuve à la fois de créativité, d'imagination, c'est leur don, et aussi de fidélité à l'esprit de l'auteur. Et si c'était, frères et sœurs, et si c'était ce que nous sommes en train de faire ? Et si c'était ce que fait l'Église ? Et si cette pièce inachevée était la Bible ? C'est une image, et elle a ses limites. Et peut-être qu'il vaut mieux d'ailleurs que je donne tout de suite les limites pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Premièrement, il ne manque rien à la Bible. Nous en sommes d'accord, contrairement à ce que pensent par exemple les Mormons. La Bible contient tout ce que Dieu a voulu que nous sachions pour notre salut. Deuxièmement, les chrétiens ne sont pas appelés à jouer un rôle, mais à vivre authentiquement. Ils ne sont pas appelés à l'hypocrisie, mais à la vérité. Mais une fois ces limites posées, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer notre vie de chrétien et notre vie d'église comme l'improvisation du cinquième acte de la pièce ? Le rôle des acteurs de la pièce est de s'immerger dans la pièce, de l'étudier avec attention, d'y puiser l'inspiration et la vision dont ils ont besoin. Le Seigneur nous donne à la fois une grande liberté et une grande responsabilité. Il ne nous a pas donné le scénario de notre vie présente. Mais il nous a donné suffisamment avec les quatre premiers actes pour que nous comprenions le décor de la pièce et pour que, dans ce décor et selon ce scénario, nous mettions en œuvre nos dons et avancions ensemble dans la bonne direction. Le premier acte, c'est la création. Dieu décide de créer un univers et, en son sein, un monde-jardin, un Éden. Dans ce monde, il place des créatures qu'il fait à son image, l'homme et la femme, parfaitement égaux et pourtant quelque peu différents. Dans ce monde, il place aussi des animaux et des plantes qui reçoivent de lui la vie, chacun selon son espèce. À l'être humain, il confie une mission, gérer la terre et faire en sorte qu'elle soit utile pour ceux qui l'habitent. Ce travail, l'homme et la femme doivent le faire en relation avec leur créateur, en accord avec lui, lui qui est le maître du jardin. Non pas que le Seigneur ait cherché à embaucher des jardiniers, mais parce qu'il a voulu créer des êtres qui lui ressemble suffisamment pour vivre et agir en communion avec lui, pour entrer joyeusement dans ses projets, pour lui parler, pour écouter sa parole, des êtres qui recevraient de cette relation la vie, jour après jour. Ce premier acte nous parle de Dieu, d'un Dieu qui est à l'origine de tout, d'un Dieu qui est au-dessus de tout. Ce premier acte a tout d'une belle histoire. Il commence comme commencent les belles histoires. Il est plein de projets, plein de vie, de créativité, de relations, d'actions. Mais il n'est pas une belle histoire parmi beaucoup d'autres. Il est la source de toutes les belles histoires. Il nous permet de comprendre ce premier acte, pourquoi nous aspirons à la vie, pourquoi nous aspirons aux relations, pourquoi nous faisons des projets, pourquoi nous agissons, pourquoi nous désirons la paix, pourquoi nous désirons l'amour, pourquoi nous aimons la communion. Le deuxième acte, cependant, semble confirmer l'adage qui dit que les belles histoires se terminent toujours mal. C'est la chute. C'est ce moment dans les films où la voiture qui roule tranquillement est heurtée par un camion. C'est plus encore ce moment terrible où une soirée joyeuse d'amitié dans un restaurant se termine dans le sang et les larmes. C'est le choc. C'est la tragédie. Plus insidieusement encore, c'est le doute qui s'instille dans une relation de confiance. C'est l'orgueil qui efface la simplicité. C'est la peur qui gangrène la paix. C'est la trahison qui détruit l'alliance. C'est la volonté de se passer de l'autre. C'est l'acteur de la pièce qui se prend pour l'auteur et qui réécrit l'histoire à son image. Le deuxième acte nous dit quelque chose de la condition humaine. Rien ne peut changer le fait que nous sommes des créatures de Dieu. Mais l'image de Dieu en nous s'est brouillée. Le deuxième acte nous permet de comprendre pourquoi nous vivons dans un monde qui est défiguré et qui porte pourtant des traces d'une magnifique beauté. Le deuxième acte nous permet de comprendre pourquoi les relations sont si compliquées et si conflictuelles, alors que nous aspirons à la simplicité et à la communion. Le deuxième acte nous permet de comprendre pourquoi les choses ne sont pas ce que nous voudrions qu'elles soient. Pourquoi, lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons une telle obscurité? Et même en nous. Quelqu'un m'a envoyé ce message hier après-midi. Je ne sais pas quoi faire. Je ressens une telle haine dans mon cœur. Le troisième acte, c'est l'histoire d'Israël. L'histoire d'un peuple qui pourrait être l'histoire de tous les peuples de la terre. Le troisième acte, à la première lecture, vous paraît très désordonné. Ce sont des pages, et des pages, et des pages encore, au point que vous vous demandez si c'est une seule histoire ou si ce sont plusieurs histoires qui sont posées les unes à côté des autres. C'est l'histoire d'un peuple qui doit d'abord, pour exister, sortir de l'esclavage, puis d'un peuple qui est bousculé par les événements, un peuple qui a du mal à se frayer un chemin au travers des siècles, parfois par sa propre faute, parfois par la faute des autres. Un peuple qui ne repère pas les virages à prendre et qui sort de la piste. Un peuple qui est attaqué injustement par la violence extérieure. Un peuple qui a du mal à comprendre ce qui lui arrive, qui s'interroge sur son sort, sur son Dieu, sur son passé, sur son avenir. Un peuple qui chante, qui prie, qui réfléchit. Le troisième acte est un peu perturbé. Mais lorsque vous regardez en arrière et que vous reprenez la lecture pour essayer de comprendre la logique, et lorsque vous lisez un petit peu entre les lignes, vous percevez un fil rouge qui passe d'une scène à l'autre de ce troisième acte. Ce fil rouge conduit d'un homme à une famille, puis à un peuple qui, de père en fils et de mère en fille, se transmet un fil fragile, le fil de l'espérance, tant bien que mal, un fil très fin. Presque invisible parfois. Un fil qui traverse les pages de l'histoire, qui traverse les générations, qui traverse les siècles, un fil auquel s'accrochent des hommes et des femmes, des enfants, des gens qui se relèvent en se tenant à ce fil, tout en ayant l'impression qu'il pourrait casser à chaque instant. Mais le fil devient de plus en plus ténu. Il disparaît presque, il est certainement rompu. N'y aurait-il plus d'espoir ? Plusieurs fois pourtant, L'espoir prend corps et on commence à y croire. Il y a un élan de vie, une unité nationale. Et vous vous dites que le mouvement de mort n'était peut-être finalement pas irréversible. Mais vous tournez la page et quelque chose de terrible se produit. Et à la page suivante, quelque chose d'encore pire se produit. Est-ce que nous avons touché le fond ? Le fil rouge du troisième acte se déploie doucement dans l'histoire. Il oscille à la manière d'une onde sonore, d'une parole, d'une voix. Une voix qui parle d'alliance et de rupture. Une voix qui parle de tristesse et de colère. Tristesse de voir des créatures perdues. Colère de voir ce qu'elles ont fait de la vie qui leur a été donnée. Un témoin hier matin à la télévision parlait de tristesse et de colère. Tristesse de voir la souffrance de tous ces blessés, colère contre le mal qui fait tant de dégâts, tristesse et colère du Seigneur à cause de son amour pour l'humanité perdue. Une voix qui appelle « Revenez à moi et je me tournerai vers vous ». Le troisième acte nous apprend à la fois ce que Dieu attend de nous et notre incapacité à le faire. Le troisième acte, ce sont des êtres humains qui essayent de continuer à vivre, à agir, à faire des projets dans un monde devenu compliqué et hostile. Ce sont des êtres humains qui se déchirent, se combattent, ne se comprennent pas, se perdent, mais pourtant qui cherchent à s'aimer, à se comprendre, à se trouver. Le troisième acte nous dit que l'être humain cherche Dieu, mais qu'il ne peut pas le trouver parce qu'il se prend lui-même pour Dieu. Le troisième acte nous dit que Dieu est parti à la recherche de l'être humain. Et qu'il ne laissera pas le mal impuni. Le quatrième acte, c'est celui du salut ou de la rédemption. Dans le quatrième acte, on comprend ce qu'était le fil rouge du troisième acte. C'était le fil du salut, le fil de la délivrance. On comprend qu'il s'est en effet rompu sur la terre parce que le salut ne pouvait venir que du ciel. Le quatrième acte, c'est cette plante qui perce le béton et qui commence à germer. Le quatrième acte, c'est la lumière du matin qui chasse l'obscurité. C'est cette petite graine de rien du tout qui devient une magnifique plante. C'est Dieu lui-même qui vient sur la terre pour nous montrer de lui-même ce qu'il voulait pour nous. C'est le Fils de Dieu qui se fait homme pour qu'enfin nous comprenions ce qu'est la vie telle que Dieu la veut. C'est la parole de Dieu qui se fait entendre dans un tout petit coin du monde, mais qui résonne jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le quatrième acte, avant d'être une histoire de vie, c'est une histoire de mort. Il ne pouvait pas en être autrement. Le jugement était suspendu, mais qui laisserait le mal impuni ? Qui dirait que les coupables ne doivent pas être jugés et condamnés ? Le cycle infernal de la haine et de la violence, du mensonge et de la convoitise, de l'orgueil et du mépris ne pouvait être arrêté. Qui aurait pu se lever en présence du Créateur et faire valoir son droit au salut ? Mais le Fils de Dieu, lui, s'est tenu debout. Il a fait face à la violence humaine et il a pris sur lui notre condamnation. À la croix, l'ennemi de l'humanité est vaincu, le péché et le mal. Le roi du royaume de Dieu est mis à mort, mais son corps brisé et son sang répandu sont l'offre d'une nouvelle alliance, et sa résurrection le troisième jour révèle sa justice. À la lecture du quatrième acte, vous avez l'impression de relire l'acte 2 et l'acte 3, mais réécrit. Ce qui était impossible devient possible. Une nouvelle humanité est créée au sein de l'humanité déchue. Ce qui était vrai pour Israël est étendu à toutes les nations. Si quelqu'un, quiconque, s'associe à Jésus-Christ par la foi, se joint au roi du royaume des cieux, alors cette personne reçoit une vie nouvelle. Le quatrième acte, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle que nous n'osions plus espérer, mais que nous attendions de tout notre cœur. C'est la victoire du Christ, finale et définitive, sur le péché et sur la mort. Quatre actes, ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament. Un cinquième acte, dont nous sommes les acteurs, sur la scène du monde. Oui, parce que à partir de là, il faut vivre, il faut agir, il faut parler. Qu'est-ce qui va faire que le cinquième acte sera réussi ? Bien sûr, c'est son lien avec les quatre premiers actes, ce sont eux qui font autorité. Mais il n'y a pas de garantie de réussite. Nous le savons, par expérience, les chrétiens ne sont pas toujours bons. Il y a toujours un risque dans la foi et dans l'obéissance, parce que le scénario du cinquième acte n'est pas écrit. Mais cela ne signifie pas que la tâche est impossible, pour trois raisons. Premièrement, parce que nous sommes imprégnés de la Bible. Nous ne nous contentons pas d'aller y chercher un verset de temps en temps quand nous en avons besoin. Nous aimons la Bible, nous la connaissons, nous la lisons ensemble, nous écoutons nos prédicateurs nous en parler. Nous aimons la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Elle est en nous, elle est dans nos pensées, elle est dans nos projets. C'est bien cela. Est-ce que nous sommes toujours des passionnés de cette parole ? Cette parole qui nous dit ce que nous devons savoir pour vivre dans le temps présent. Cette parole qui nous donne les valeurs dont nous avons besoin pour prendre nos décisions. Cette parole qui structure nos pensées, qui oriente nos actions. Deuxièmement, la tâche n'est pas impossible parce que l'esprit de l'auteur est avec nous. Non seulement nous avons les quatre premiers actes de l'histoire, mais nous avons aussi l'esprit de l'auteur, celui qui a rédigé la pièce. Celui qui a écrit l'histoire, celui qui a créé le monde et qui nous a créés, celui qui a patiemment tissé dans l'immense tapisserie de l'histoire humaine le fil rouge du salut. Celui qui s'est fait homme en Jésus-Christ, celui-là, ce Dieu-là, nous a envoyé son esprit. Nous sommes la maison de l'esprit. L'Esprit Saint est le moteur de notre action, il est la force personnelle qui nous met en mouvement, qui nous permet d'avancer et de vivre l'Évangile. En fait, il y a une chose que je ne vous avais pas dite, c'est que la première scène du cinquième acte est écrite. Ça se complique un peu, excusez-moi. Le cinquième acte n'est pas écrit, mais la première scène nous est donnée. C'est le don du Saint-Esprit, c'est la Pentecôte, ce sont les premiers temps de l'Église, et cette première scène nous donne les indications précieuses sur la façon dont la suite doit être jouée. Troisièmement, troisième raison pour laquelle la mission n'est pas impossible, c'est en fait encore une chose que je ne vous ai pas dite. Nous avons les quatre premiers actes, nous avons la scène première du cinquième acte, mais nous avons aussi la conclusion de la pièce. La fin est déjà écrite. C'est la nouvelle création promise. La création, la chute, l'histoire d'Israël, le salut en Jésus-Christ, puis la première scène du cinquième acte, le don du Saint-Esprit et les débuts de l'Église. À la suite, pour la suite du cinquième acte, c'est à nous de jouer. Mais la conclusion est déjà là. La nouvelle création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre sur laquelle, comme le dit notre confession de foi, la justice habitera. Voilà le cadre général dans lequel nous vivons notre foi aujourd'hui. Voilà la trame qui nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Voilà le mouvement dans lequel nous inscrivons notre action quotidienne, notre travail, nos responsabilités, nos paroles, notre vie d'Église. Cette histoire de pièce de théâtre, je suis d'accord, ce n'est qu'une image. Je le répète, et elle a ses limites, mais j'espère qu'elle pourra nous faire réfléchir, qu'elle pourra peut-être aussi nous inspirer. L'Église vit sous l'autorité de la parole de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, dans un monde en perpétuel changement. Chaque jour, et en particulier ces derniers jours, de nouveaux défis apparaissent, de nouvelles questions se posent. Chaque jour, l'humanité invente de nouvelles façons de faire le mal et de s'opposer à Dieu. Dans le temps présent, le Seigneur donne à son peuple une grande liberté et une grande responsabilité. À nous d'agir en accord avec l'histoire biblique, sous l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit, en fonction des dons qui nous ont été donnés, dans nos projets, dans notre travail, dans nos responsabilités, dans nos relations, dans nos paroles. Et tout ça, jusqu'à la conclusion prévue. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous pardonne nos échecs et qu'il nous donne la conviction, la force et l'amour dont nous avons besoin. Amen.